Chapitre 10. Pour l'Europe. Un manifeste des écrivains et penseurs de Catalogne. Les passions nationales triomphent. Depuis 5 mois, elles déchirent notre Europe. Elles pensent l'avoir bientôt détruite et effacer son image dans le cœur des derniers qui lui restent fidèles. Elles se trompent. Elles ont ranimé la foi que nous avions en elles. Elles nous ont fait connaître son prix et notre amour. Et d'une patrie à l'autre, nous avons découvert nos frères inconnus, les fils de la même mère, qui, à l'heure où elle est reniée, se voue à sa défense. Aujourd'hui, c'est une voix qui nous vient de l'Espagne, des penseurs catalans. Transmettons l'appel de cette cloche de Noël, que le vent nous apporte des rivages méditerranéens. Un autre jour, nous entendrons les cloches de l'Europe du Nord, et bientôt, elles se fondront en un même concert. L'épreuve est bonne. Remercions-la. Ils ont uni nos mains, ceux qui voulaient nous séparer. 31 décembre 1914, Romain Rolland. Manifeste des amis de l'unité morale de l'Europe. Aussi loin de l'internationalisme amorphe que de tout localisme étroit, un groupe d'intellectuels s'est constitué à Barcelone, pour affirmer leur croyance irréductible en l'unité morale de l'Europe, et pour servir cette croyance, autant que le permet le tragique étouffement des circonstances actuelles. Le principe dont nous partons est que la terrible guerre qui déchire aujourd'hui le cœur de notre Europe constitue, par définition, une guerre civile. Une guerre civile ne veut pas dire précisément une guerre injuste. Mais alors il faut qu'elle soit justifiée par un conflit entre de grands intérêts idéaux. Et si l'on désire le triomphe de l'un d'eux, ce doit être pour la totalité de la République européenne et pour son bénéfice général. Il ne peut donc être permis à aucun des partis aux prises de travailler à la destruction complète de l'adversaire. Il est encore moins légitime de partir de la criminelle hypothèse qu'un quelconque des partis se trouve déjà exclu, de fait, de la communauté supérieure. Et pourtant, nous avons eu la douleur de voir ces assertions admises, propagées avec furie, et pas toujours dans les milieux vulgaires, ni par des voix dépourvues d'autorité. Durant 3 mois, il a paru que notre idéal européen faisait naufrage. Mais une réaction commence à se dessiner. 1000 indices nous assurent qu'au moins dans l'ordre de l'esprit, les vents vont s'apaiser et que bientôt renaîtront dans les meilleures consciences les valeurs éternelles. Nous nous proposons de collaborer à cette réaction, de contribuer à la faire connaître et, dans la mesure de nos forces, à la faire triompher. Nous ne sommes pas seuls. Nous avons avec nous, dans tous les lieux du monde, les aspirations ardentes des esprits clairvoyants et les vœux tacites des milliers d'hommes de bonne volonté qui, par-dessus leur sympathie et leurs préférences personnelles, savent rester fidèles à la cause de cette unité morale. Et nous avons surtout, dans les lointains de l'avenir, l'appréciation des hommes qui, demain, jugeront bonne l'œuvre modeste à laquelle nous nous vouons aujourd'hui. Pour commencer, nous nous efforcerons de donner la plus grande publicité possible à la notice de tous les faits, déclarations et manifestations se produisant dans les pays belligérants comme dans les pays neutres, où se révèle un effort pour faire revivre un sentiment de synthèse supérieure et d'altruisme généreux. Plus tard, nous pourrons agrandir notre action et la mettre au service de nouvelles entreprises. Nous ne demandons rien de plus à nos amis, à notre presse, à nos concitoyens, qu'un peu d'attention pour ces palpitations de la réalité, un peu de respect pour les intérêts d'une humanité supérieure, un peu d'amour pour les grandes traditions et les riches possibilités de l'Europe une. Barcelone, 27 novembre 1914. Traduit de l'espagnol par Romain Rolland, Journal de Genève, 9 janvier 1915. Chapitre 11. Pour l'Europe, un appel de la Hollande. Aux intellectuels de toutes les nations. Dans un article récent, où je présentais aux lecteurs du journal de Genève le beau manifeste des intellectuels catalans pour l'unité morale de l'Europe, j'annonçais qu'après ces voix du midi méditerranéen, je ferais entendre celles du Nord. Voici, parmi ces dernières, la voix de la Hollande. Le Nederlandse Anti-Oorlog Raad, conseil néerlandais contre la guerre, est l'essai le plus important peut-être qui ait été fait dans ces derniers mois pour grouper les pensées pacifistes. Tout en reconnaissant la valeur des efforts accomplis depuis quelques années en faveur de la paix, le NAOR est convaincu que tout ce travail aurait pu être beaucoup plus efficace et même qu'il aurait pu prévenir le désastre actuel si l'on s'y était mieux appliqué. Il y a eu défaut de coopération, gaspillage d'énergie, manque de pénétration dans la masse du peuple. Il s'agit de savoir si l'on ne remédiera pas à ce vice intérieur. La tragédie mondiale de rivalité continuera-t-elle même dans le mouvement pacifiste, ou cette guerre apprendra-t-elle à ceux qui la combattent la nécessité d'une organisation et d'une préparation énergique? C'est à cette tâche que s'est voué le NAOR. Fondé le 8 octobre 1914, il avait réussi, le 15 janvier, à grouper l'adhésion de 350 sociétés hollandaises, sociétés officielles, politiques, de tous les partis, religieuses, intellectuelles, ouvrières. Et ces manifestes réunissent les signatures de plus d'une centaine de noms, parmi les plus illustres des Pays-Bas. Hommes d'État, prélats, officiers, écrivains, professeurs, artistes, industriels, etc. Ils représentent donc une force morale considérable. Disons tout de suite que le NAOR ne vise pas à la fin immédiate de la guerre par une paix à tout prix. D'une part, il le dit lui-même, il ne se fait pas une idée présomptueuse de ses forces. Il n'a pas une confiance naïve dans les formules de paix vagues, ni même dans des obligations mutuelles bien définies. La guerre universelle d'aujourd'hui lui a, hélas, beaucoup appris aussi sous ce rapport. Et d'ailleurs, il se rend bien compte qu'une paix à tout prix, dans les conditions actuelles, ne serait que la consécration de l'injustice. Les grandes réunions publiques qu'il a organisées le 15 décembre dans les chefs-lieux de province des Pays-Bas ont été unanimes à déclarer qu'une telle paix ne semblait ni possible ni même désirable. J'ajouterai que certains des vœux du NAOR indiquent, avec toute la réserve que lui impose son attitude de neutralité et son désir profond d'impartialité, la direction de ses sympathies intérieures, comprimées. Notamment celui-ci, pour la réparation du dommage causé par cette guerre au règne du droit dans les relations entre États. S'incliner devant le droit, soit coutumier, soit codifié dans des traités, est un devoir, même faute de sanctions. On aura beau réformer, s'il n'y a pas de respect pour le droit, ni foi à la parole donnée, on ne peut espérer une paix durable. L'objet du NAOR est surtout d'étudier les conditions dans lesquelles pourra être réalisée une paix juste, humaine et durable, qui assure à l'Europe un long avenir de tranquillité féconde, de travail en commun, et d'y intéresser l'opinion publique de toutes les nations. Sans analyser ici, faute de place, les divers manifestes publiés, l'appel au peuple néerlandais, octobre 1914, ou l'appel pour la coopération et la préparation à la paix, sorte d'essai de mobilisation des armées pacifistes, novembre, dont les idées se rencontrent sur beaucoup de points avec celles de l'Union of Democratic Control, abolition du système de diplomatie secrète et part plus grande des parlements aux affaires étrangères, prohibition des industries particulières de fabrication d'armes, établissement du principe élémentaire de droit des peuples qu'aucun pays ne peut être annexé sans le consentement librement exprimé des populations. Je me contenterai de publier celui de ces manifestes qui s'adresse aux penseurs, écrivains, artistes et savants de toutes les nations, car nous y trouvons un appui pour la tâche que nous poursuivons nous-mêmes, en travaillant à maintenir la pensée européenne à l'abri des ravages de la guerre et en ne cessant de lui rappeler son plus haut devoir, qui est, même dans les pires tempêtes des passions, de sauvegarder l'union spirituelle de l'humanité civilisée. Romain Rolland, 7 février 1915. Nederlandse Anti-Oorlog Raad. Immédiatement après que la guerre européenne eut éclaté, différents groupes d'intellectuels des nations combattantes ont plaidé le bon droit de leur pays en des manifestes et des brochures qu'ils ont fait répandre abondamment dans les pays neutres. À côté de la guerre par l'épée, ils livrent une guerre non moins violente par la plume. Ces écrits sont parvenus aux sous-signés, tous sujets d'un pays neutre. Ils en ont pris connaissance avec un vif intérêt. Ils ont pu se former ainsi une idée plus nette de l'état d'esprit des intellectuels des nations combattantes et de leurs opinions sur les origines et le caractère de la guerre actuelle. Ils ne sont pas étonnés que les porte-paroles des puissances aux prises soient tous également convaincus d'avoir le droit de leur côté. Ils ne le sont pas davantage que ces hommes soient si impérieusement poussés à plaider leur bon droit auprès des neutres. En effet, dans une lutte aussi épouvantable, il est psychologiquement nécessaire pour tous les peuples en guerre qu'ils aient une foi absolue en la justice de leur cause, et il est naturel qu'ils désirent ardemment témoigner de cette foi devant d'autres. Seule une confiance inébranlable en la certitude absolue de leur cause peut les préserver de fléchir ou de se décourager dans ce combat furieux. Mais c'est avec une douleur sincère que nous avons dû constater qu'en presque tous ces écrits manquait jusqu'au moindre effort pour être juste envers l'adversaire, et qu'ordinairement on attribuait à celui-ci les motifs les plus pervers et les plus odieux. Nous respectons la conviction des nations belligérantes qu'elles combattent pour une cause juste. Alors même que nous aurions déjà formé notre opinion propre sur les origines de cette guerre, nous jugerions inopportun d'opposer à présent les opinions et les arguments les uns aux autres. Ce doit être réservé pour plus tard, quand un examen scientifique en pourra peser tranquillement la valeur, quand les passions nationales se seront apaisées et que le jugement de l'histoire pourra être écouté avec calme. Cependant, nous estimons de notre devoir et nous considérons comme un avantage de notre qualité de neutre de faire entendre notre voix contre un état de choses qui entretient systématiquement une animosité permanente entre les ennemis actuels. Tout en comprenant parfaitement que les événements surexcitent le sentiment national, nous croyons que le patriotisme ne doit pas exclure la capacité de reconnaître la valeur de l'adversaire, que la juste conscience des vertus d'un peuple ne doit pas impliquer l'erreur que le peuple ennemi a tous les vices, que la conviction dans la justice d'une cause ne doit pas faire oublier que l'adversaire ressent aussi fortement la même conviction. Si tel peuple est l'ennemi d'un autre, c'est, qu'on ne l'oublie pas, pour des rapports politiques. Et ces rapports changent, suivant des circonstances que nul ne peut prévoir. L'ennemi d'aujourd'hui sera peut-être l'allié de demain. La façon dont l'on traite l'adversaire dans la presse des puissances belligérantes menace d'éterniser la haine la plus atroce. Aux maux qui sont déjà la conséquence immédiate de la guerre, s'ajoutera encore ce malheur déplorable que la coopération des nations, désormais ennemies, sera entravée, sinon rendue impossible pour longtemps, dans les arts, dans les sciences, dans tous les travaux de la paix. Et pourtant, après cette guerre, il faudra bien que le temps vienne où les peuples devront reprendre leurs relations tant sociales qu'intellectuelles. Moins on aura proféré d'accusations violentes de part et d'autre, moins on aura flétri le caractère d'un autre peuple, moins on aura suscité d'animosité persistante, et plus il sera facile de renouer plus tard les fils rompus des relations internationales. Mais qui soulève la haine, qui, en parole ou en écrit, invective l'adversaire et déchaîne les passions nationales, est responsable de la prolongation de cette guerre affreuse. C'est pourquoi les sous-signés font appel à tous, surtout à ceux qui appartiennent au peuple belligérant, pour qu'ils s'abstiennent, en parole et en écrit, de tout ce qui peut exciter une haine permanente. Ils adressent cet appel en premier lieu à ceux qui ont la charge de diriger l'opinion publique dans leur patrie, aux hommes de science et d'art, à ceux qui depuis longtemps savent que, dans tous les pays civilisés, il est des hommes qui ne pensent pas autrement qu'eux sur la morale et sur le droit. Puissent les guides de toutes les nations, comme l'a dit naguère un homme d'État néerlandais, ne pas songer seulement en ces jours à ce qui les sépare, mais à ce qui les unit. Journal de Genève, 15 février 1915.